qui est avec le Seigneur tient bon, même si tes prières n'ont pas encore été exaucées, même si tu désires plus de la part de Dieu, même si c'est dur à certains moments, c'est dur quelquefois de se relever. Enfin, je crois que c'est important de pouvoir tenir ferme. Et ceux qui tiennent ferme, eh bien, reçoivent une couronne incorruptible pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Un jour, le Seigneur va récompenser ceux qui auront réussi. Hein. Et réussir, c'est quoi? C'est avoir les yeux sur le Seigneur, avoir les bons objectifs, les bonnes priorités dans sa vie, avancer sans se lasser, ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, mais aller dans le sens de la volonté de Dieu, même si c'est dur et même si aucune vie n'est facile. On va dire que pour certains, c'est extraordinaire, c'est des choses extraordinaires qui arrivent. Oui, c'est vrai qu'il y a des phases dans la vie. Hein. Si on est des fiancés et qu'on avance vers le mariage, c'est extraordinaire. Hein, il y a de belles choses, mais il y a aussi tout un lot de difficultés dans nos vies. Alors ne perdez pas courage. Vous avez des rêves, accomplissez-les. Dieu va vous aider à accomplir ces rêves à lui. Hein, les rêves qu'il vous a mis peut-être dans votre cœur. Joseph n'avait pas inventé ses rêves. C'est Dieu qui lui avait donné. Et quelquefois, nous avons des rêves qui deviennent notre propriété quelque part, parce que c'est nous qui allons les vivre quelque part. Enfin, non. C'est Dieu qui est propriétaire de nos vies, mais on n'est pas, il nous est pas interdit d'avoir des rêves. Il y a de belles choses. De très belles choses. Alors j'aimerais bien qu'on aille voir dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Dans Hébreux, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça fait penser beaucoup aux Jeux Olympiques, ça. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, un objectif du coureur dans le start, du coureur qui ont la foi. Qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite de Dieu. À la droite du trône de Dieu, pardon. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Voilà, donc Jésus, il avait un objectif clair, remporter la course. Et remporter la course pour lui, c'était de venir sur la terre avec l'objectif de nous sauver, de sauver évidemment des millions de personnes, des milliards de personnes. Hein. On sait bien que la route est large, large le chemin qui mène à la perdition. Resserré et le chemin qui conduit à la vie, et la porte est basse, elle n'est pas grande, la porte où le monde s'engage, elle est large et spacieuse, mais la porte qui conduit vers le royaume de Dieu, elle est resserrée, elle est basse, parce qu'il faut s'incliner, il faut être humble, et il faut s'incliner devant le Seigneur. Et voilà, donc c'est pas toujours aussi facile que cela. Mais courir avec persévérance l'épreuve. Notre vie est comme une épreuve. C'est une succession d'épreuves. Une succession de montagnes à franchir, de difficultés les unes après les autres. On a remporté la victoire dans une épreuve, il y en a une autre. Et ce sera toute notre vie. Notre vie, elle est faite de joie, de bénédiction, de chance extraordinaire, d'épreuves, de difficultés. Le Seigneur nous dit lui-même. On aura beaucoup de choses, on sera béni spirituellement, béni matériellement, etc. Tout ça peut arriver. Hein. Mais nous aurons un lot d'épreuves. Ça, c'est logique, c'est normal. C'est la vie chrétienne normale. C'est savoir endurer. Et savoir passer par l'étroite vallée. La vallée de la mort, du psaume 23. Il est avec nous pour nous donner la victoire. Il nous faut donc de la patience, de la persévérance et de la patience. Une différence, savoir patienter, savoir être patient dans l'épreuve, parce qu'on sait qu'il y a un bout, hein, comme on le dit souvent, et persévérer, c'est poursuivre inlassablement, hein, et de continuer l'effort. Donc il y a une marque de continuité dans l'effort à fournir. En tant que chrétien, nous devons fournir des efforts. C'est Pierre qui le dit aussi. Hein. De fournir des efforts pour obtenir justement le. C'est le Saint-Esprit qui façonne le caractère du Christ en nous. Mais tout ça se déroule dans une succession de circonstances de notre vie. Parce que c'est au travers des épreuves que Dieu fait grandir le Christ en nous. Que nous sommes appelés à devenir des petits Christ, des disciples qui ressemblent à leur maître. Et tout ça se produit au travers des difficultés. Et donc la persévérance, c'est continuer même quand c'est dur. Vous savez, il y en a un autre qui est très persévérant, c'est le diable. Il est très persévérant pour nous faire du mal. Lui, c'est son boulot, c'est son job. Il est à temps plein, là-dedans, 24 heures sur 24, pour essayer de tendre des pièges aux chrétiens. Donc nous sommes dans un combat spirituel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Hein, même si on a envie d'être en vacances et d'être un peu tranquille. Bien, l'ennemi, lui, il ne se repose pas, mais justement, il nous attaque. Il nous fait du tort. Et c'est au moment où on est oisif que là, on va en ramasser plein la figure. Donc, il est question de veiller et d'être sur ses gardes nuit et jour. Nous n'avons pas le droit d'être en vacances au niveau de la prière, par exemple. La prière est nécessaire à tout temps, en tout temps. Le Seigneur, nous savons qu'il veille et ne dort pas. Hein, il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. Et il est El Shaddai, le gardien des portes d'Israël. Il nous garde, il nous protège, mais c'est pas pour ça que nous devons nous endormir sous notre oreille de paresse en ne faisant plus rien spirituellement. Non, nous avons à lire la parole, à nous entretenir spirituellement. Donc c'est tellement important de continuer constamment. Les pécheurs persévèrent dans le mal. Ouais, nous devons persévérer dans le bien, nous devons persévérer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle, la communion des frères et des sœurs, c'est très important, la fraction du pain, nous avons réalisé cela. Persévérer, c'est important. C'est les quatre points où les apôtres et tous les disciples primitifs persévéraient. Alors, il y a une longueur, la vie est longue. Elle est courte, on peut dire, elle est courte, ressemblant à un souffle, à une herbe qui va bientôt disparaître. Mais c'est long quelque part, et c'est court à la fois, mais c'est long, parce qu'une vie, c'est beaucoup de jours, quelquefois beaucoup d'années, beaucoup de décennies, mais il y a une certaine longueur, c'est comme un marathon. Hein, on n'est pas appelé à courir nécessairement un 100 mètres. La vie chrétienne, pour moi, c'est pas seulement un 100 mètres. C'est vraiment, comme les marathons, plus de 40 km. Courir plus de 40 km, c'est pas évident. J'ai jamais fait de marathon, mais je me rends bien compte que c'est quand même une fameuse distance. Et, la vie chrétienne, ben voilà, c'est un marathon. Alors, il nous faut vraiment de l'endurance, être endurant dans toutes les difficultés qui vont être proposées, qui sont proposées dans notre vie. Donc il y a une notion de ténacité, être tenace. être tenace par rapport aux épreuves, comme un pitbull qui tient dans sa gueule quelque chose, il ne lâchera pas, et bien nous ne devons pas lâcher. Et pour ça, il faudra des objectifs qui soient clairs dans notre esprit. Si nous avons des objectifs dans notre vie, nous allons tenir grâce à ces objectifs. Hein? C'est tellement important. Jésus avait l'objectif d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre, de mourir pour les pécheurs et de conduire à la vie éternelle un grand nombre. Hein, on le voit dans Ésaïe 52, 53, 50, fin du chapitre 52. Et c'est tellement important, c'est le serviteur souffrant, qui a un but, qui a un objectif. Il n'aurait pas pu faire tout ça sans objectif. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et il avait dit bien avant de venir sur la terre. Et donc ça, c'est tellement important d'avoir un sens à ce que nous faisons. Une trajectoire, un objectif pour lequel nous vivons. Et donc, si nous avons cet objectif, nous allons être forts face au découragement. Hein. Nous allons être obstinés, pas une mauvaise obstination, dans le sens d'être têtu. L'entêtement peut être négatif, mais être dans le bon sens, c'est vraiment aller jusqu'au bout et avoir le désir de se maintenir, de supporter, de tenir bon jusqu'au bout, malgré les obstacles. Donc, par exemple, Paul, eh bien, il félicitait les Thessaloniciens, pardon, au chapitre 1er, verset 4, dans la deuxième épître. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos des Thessaloniciens. Donc, il loue les Thessaloniciens à cause de leur persévérance et de leur foi. Donc, persévérance et foi vont ensemble. Patience, persévérance, foi. On va dire ces trois mots qui vont bien ensemble. Hein, la patience, c'est savoir attendre jusqu'à exaucement, hein, quand nous prions pour des âmes de notre famille. Quelquefois, certaines personnes dans notre famille sont sauvées, même au-delà de notre vie, hein, pour savoir, des fois, hein, je ne dis pas que ça va être comme ça, mais dans certains cas, ça a été comme ça. On doit être prêt à aller jusque-là. À prier sans cesse, pour le dire, prier sans cesse, jusqu'au bout en y croyant. Et la prière avec ténacité, ça peut être comparé à un marathon. Je ne m'arrêterai pas. Je ne dirai pas à un moment donné, j'en ai marre, c'est fini, je ne veux plus prier pour se sentir, là, c'est fini, Dieu, la vie de prière. Non, j'ai continué à prier jusqu'où? Pour un changement profond dans ma vie et pour le changement chez les autres. Hein, je ne peux pas changer les autres. Je peux demander à Dieu d'intervenir. Mais Dieu, il fait une œuvre en premier dans ma vie. Quand je prie, je deviens quelqu'un face à mes épreuves. Dieu, il veut transformer ma vie en premier avant de transformer les autres. Il s'intéresse à moi parce qu'il veut transformer ma vie. C'est d'abord moi qui veux être transformé. Quelquefois, on voudrait ne pas changer, que ce soit les autres qui changent. Si, c'est souvent comme ça. On peut dire, c'est mon mari qui doit, c'est mon enfant, c'est mes enfants qui doivent changer, c'est les frères et les soeurs, c'est mes voisins, leurs grands-mères, on n'est pas compte, ceci, ça, etc., etc. Alors, on va vraiment être en but avec les problèmes des autres. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Au travers des circonstances, il veut nous transformer, nous. Donc on doit déjà avoir de la patience pour nous-mêmes. Parce que Dieu, il en a beaucoup pour nous. Énorme. C'est énorme. Et bien sûr, si Dieu nous demande d'avoir de la patience, il le demande aussi pour les autres. dans toutes vos persécutions, ils étaient persécutés et ils avaient des afflictions qu'ils supportaient. Ils étaient affligés, donc ils avaient des tristesses, sujets de tristesse. Et il y avait des sujets de joie plus grands, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de sujets de tristesse. Et donc, quand on est persécuté, on n'est pas persécuté comme eux, ils étaient persécutés pour leur foi. Et donc certains se sont retrouvés en prison, certains ont été frappés, etc. Donc c'est pas évident, hein. Imaginez-vous que parmi nous, il y en a qui se trouvent en prison pour leur foi, pour paroisse, etc. C'est autre chose. Quelquefois, on nous critique, hein, sur nos photos, mais ça nous fait aussi, ça peut provoquer une douleur, une affliction, mais si ce que les autres disent de nous est faux, ça nous protège déjà. Si quelque chose est dit de nous et qui est vrai, et de négatif, là, il y a vraiment un problème. Nous devons vraiment veiller à ce que notre vie soit un parfum de la bonne odeur de Christ et à ce que nous puissions les gens ne puissent pas dire du mal de nous. Alors, l'endurance, c'est vrai, nous devons être endurants, comme lors d'un marathon ou d'une course. 1 Corinthiens 9, 24 nous dit ceci, dans la première épître aux Corinthiens, Paul: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc, il comparait un petit peu la vie chrétienne, hein, au jeu, aux courses, etc., Olympe, etc., tout ce qui s'était déjà produit à Olympe, par exemple. Voilà. Donc, c'est tellement important d'avoir une vision de ce que nous voulons accomplir et un prix à payer pour obtenir une couronne incorruptible. Les athlètes, aujourd'hui, se battent pour obtenir des couronnes corruptibles. Des couronnes qu'on va peut-être leur retirer s'ils sont dopés. Hein, image de notre athlète belge, Olivia Borlée, qui avait une médaille d'argent en 2008, mais on a découvert que celle qui avait gagné, qui avait la médaille d'or, s'était dopée, donc forcément, ben, elle reçoit la médaille d'or, c'est bien. C'est bien. Avec quelques années de décalage, enfin, bon, c'est vraiment Olivia Borlée qui était en tête de la délégation belge. C'est chouette. Il y a une importance extrême d'être persévérant pour la vie chrétienne, parce que Paul dit, j'ai achevé la course. L'important, c'est pas tellement de commencer, c'est important, bien sûr, de commencer la course, mais c'est surtout important de la finir, de bien la finir. Certains commencent la course, et abandonne de terminer, c'est dommage. Bifurque, il y a des tas de problèmes, il y a des tas de séductions, de possibilités de s'égarer, et de possibilités de se désillusionner, d'être déçu de l'exaucement de certaines prières, non-exaucement de certaines prières, déçu des autres, déçu de Dieu, déçu de soi, déçu de la vie, déçu. Et alors, on peut être tellement déçu que certaines personnes perdent la direction et s'en vont dans une autre direction. Et c'est terrible. Alors, je vais vous parler d'un coureur qui a continué. Et c'est celui qui a mis la flamme, vous savez. Van der Lee Cordero. Au Stade Maracana de Saint-Paul. Donc, il a allumé la vasque olympique. Et il faut se rappeler un peu qui c'est ce homme-là. Eh bien, en 2004, aux Jeux Olympiques à Athènes, à mi-parcours du marathon, Il s'échappe et devance le peloton des favoris. Au 35e kilomètre, il compte encore 28 secondes sur ses poursuivants. Normalement, on pense qu'il aurait pu gagner en ce moment avec ses 28 secondes d'avance. Lorsqu'un spectateur irlandais, un prêtre défroqué nommé Neil O'Han, c'est autour de Jésus, mais bon, surgit et entraîne dans la foule. Aidé par un spectateur grec, il parvient à repartir, et donc il a été plaqué au sol par ce prêtre, maintenu au sol, et grâce à un spectateur, on a pu le dégager, il a pu se remettre en course, mais il était, bon, imaginez-vous, vous faites un marathon, on vous tire, on vous met dans la foule, et on vous plaque par terre, il y a de quoi être déboussolé par un truc pareil. Habillé avec des habits verts, rouges, qui était déjà intervenu dans un match de football, donc on avait dû rater, déjà une autre occasion. Et il parvient à partir, mais il a perdu environ 20 secondes. Déplacé ensuite par l'Italien Stefano Baldini et l'Américain Mebraton Kefresidi au 38e kilomètre, il a pu pas tout de même à conserver sa 3e place, décrochant ainsi la médaille de bronze. Du gagner certainement la médaille d'or, vraiment. Dans la vie chrétienne, là aussi, il y a des tas de trucs qui peuvent se produire pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout et de vaincre. Des tas de problèmes. On aurait des raisons de ne pas continuer à un certain moment en disant c'est trop dur, j'en ai marre, c'est pas possible, j'abandonne ou. J'aime en tout cas cet exemple. C'est quand même pas laisser démonter, continuer, malgré tout, hein. Par exemple, d'autres coureurs qui ont perdu leur godasse dans la course et qui ont continué sans, avec une godasse, hein, et jusqu'au bout de la ligne. je m'en conviens même au Tour de France, hein, avec Christophe Hortefeux, il était tombé, il était dans un tout vélo, et il courait à pied, sans vélo, pour ne pas perdre trop, et puis on a conduit un vélo un peu plus loin. Voilà, des situations cocasses, voilà, parce qu'il a un but, c'est pas se plaindre, c'est pas dire, oh, mais c'est foutu, t'as vu ce qu'on a fait, ou ce qui est arrivé. Non, il continue à pied. Normalement, pour le France, c'est pas à pied qu'on le fait, mais non. Voilà, je crois que c'est important de continuer, quoi qu'il arrive. C'est vraiment la persévérance est la compagnie inséparable du chrétien. On doit persévérer jusqu'au bout. C'est déjà au départ la condition d'être sauvé. Hein. C'est la volonté de Dieu d'être sauvé, hein, de sauver toute personne. Et on sait bien que tous ne sont pas sauvés, et ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui persévèrent dans le salut. Finalement, c'est ceux qui auront persévéré. Hein? Nous sommes comparés à quatre sortes de têtes. Hein? Jésus compare ceux qui reçoivent la parole de Dieu à quatre têtes. La terre où comparé à un chemin tout dur, tout damé, tout dur, où les graines de la semence, de la parole de Dieu ne parviennent pas à entrer, volées par les oiseaux directement, qui est une image du diable, qui vient reprendre ce que Dieu a semé dans nos cœurs. Et puis il y a les terrains remplis de pierres. Alors, il y a de la joie, parce que tout de suite, ces grains deviennent des plantes, mais il n'y a pas de racines, et dès que l'épreuve survient, on arrête de croître. Et puis, il y a aussi le terrain où il y a beaucoup d'épines. Alors, forcément, les épines poussent en même temps que les grains, mais les épines poussent plus vite, les mauvaises herbes poussent plus vite, et étouffent les bons grains. Et nos cœurs sont comparés à ce genre de terre, et aussi la bonne terre qui va produire, elle, du fruit. Un grain va en produire 30, 60 ou 100, Et donc, il y a une multiplication. Et Dieu veut que nous puissions être cette bonne terre dans laquelle l'évangile prend racine et s'élève pour être à la gloire de Dieu. Que nos vies soient des vies transformées, des vies qui peuvent aussi porter du fruit pour la gloire de Dieu, malgré les difficultés. Et comme on le disait tantôt, eh bien, les difficultés, c'est pour forger notre caractère. C'est pour transformer nos vies. La foi ne sert que dans les situations difficiles. À quoi ça servira de dire j'ai la foi si je ne rencontre pas d'opposition? La foi, justement, elle sert, elle n'est seulement utile que dans la difficulté. Comme il y a beaucoup de difficultés, Dieu nous a donné la foi. La foi, c'est pas dire, oh Dieu, Dieu existe. Non. Je crois que même si il m'arrive quelque chose, même si je deviens malade, ou même si il y a des gens que j'aime qui décèdent, même si il y a des problèmes, même si je perds mon boulot, même si j'ai un accident, même si j'ai des problèmes, vous savez, Dieu peut délivrer, Dieu peut protéger, bien entendu. On prie tous les jours pour ça. Hein? Et il y a des terroristes et aussi. Et ça n'empêche qu'une chrétienne de Jean Blou a été tuée. Donc tout peut arriver. Dieu peut me protéger. Hein, si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien t'arrivera. Mais quelquefois, Dieu peut permettre aussi de détruire. Et donc, comment est-ce que je peux faire face à tous ces problèmes qui peuvent arriver? C'est par la foi, en croyant que Dieu a ses yeux sur moi. Et que s'il arrive quelque chose, c'est dans sa volonté. Mais que je peux aussi prier pour que rien n'arrive de mal en dehors de la volonté de Dieu. Que ce soit ce que Dieu permet, pas plus. Par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Si nous persévérons, nous sauverons nos âmes. Si nous persévérons, nous régnerons avec Christ. Hein, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Et nous devons veiller sur nous-mêmes, sur notre enseignement. Persévère dans ces choses, disait Paul à Timothée. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Persévère dans une vie qui plaît à Dieu et dans l'enseignement. La vérité, elle transforme, elle éclaire et finalement, c'est par la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Hein. La parole de Dieu est venue à nous, au travers de la prédication, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Dieu a fait une œuvre par sa parole, c'est une parole vivante, qui transforme par l'Esprit Saint. Elle est capable de faire une œuvre puissante, et il faut persévérer dans cette parole. Hein, c'est comme une personne me disait qu'il avait déjà lu la parole il y a 20 ans, et il connaissait déjà toute la Bible. Comme s'il n'avait plus besoin de la lire. Bon, c'est tous les jours que nous voulons lire la parole de Dieu. C'est tellement important. La persévérance nous donne de la stabilité dans notre vie. Ça nous rend stable. La persévérance dans la foi nous fait agir selon le plan de Dieu. Et en agissant selon le plan de Dieu, nous sommes stabilisés, je veux dire, nous sommes fortifiés, nous avons de l'assurance dans notre vie. Notre foi est plus forte. Donc, cette persévérance établit notre foi, enracine notre foi, et par une prière qui est persévérante, insistante, on finit par obtenir les promesses. Mais ça ne vient pas des fois tout de suite. Rappelez-vous tous ces acteurs qui ont été hyper connus. La plupart des grands acteurs, ça va dire de 50 ans qu'ils ont été fortement connus. Pas tous, il y a des gens qui ont été connus plus tôt. Mais De Funès, par exemple, est-ce que vous le connaissiez quand il était acteur, quand il avait 20 ans? Il jouait des pièces de théâtre, bien entendu, mais qui s'intéressait à lui, personne. Donc c'est une fois qu'il a eu passé les 50 ans, qu'il a commencé à être connu. Parce que le succès est arrivé plus tard, et pas beaucoup plus tôt. Voilà. Hébreux, chapitre 10, verset 35 et 36, nous dit ceci, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. N'abandonnez donc pas votre assurance. L'assurance dans la foi est très importante. Donc, se nourrir de la parole, c'est aussi, et pratiquer la parole. Se nourrir de la parole et pratiquer la parole, c'est le moyen d'obtenir de l'assurance. Mais il ne faut pas abandonner cette assurance. Parce que cette assurance est attachée à une grande rémunération. Il y a une grande rémunération qui nous attend au ciel. Il y a des récompenses célestes grandioses. Mais c'est attaché à la persévérance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et constamment, jusqu'à ce que nous recevions la couronne de vie qui est promise, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu promet et Dieu va accomplir. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous obtiendrons de la part de Dieu si nous n'abandonnons pas. Hein, nous allons lire cela à Galates 6, verset 3. Est-ce que vous pouvez vous garder dans le livre Galates 6, chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas, il ne faut pas se relâcher. Il faut persévérer. Il faut continuer. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Nous moissonnerons. Ça veut dire que quand nous semons, c'est peut-être avec tristesse, c'est peut-être difficile. Il y a des moments très difficiles dans notre vie chrétienne. Mais nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Pas se relâcher. Pas abandonner. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Alors, la persévérance produit l'exaucement et la victoire. On voit ça avec Abraham qui a été exaucé à 100 ans. Dieu lui a promis, mais pendant 25 ans, il a dû attendre. Et il a persévéré dans sa foi. Non pas qu'il a toujours bien agi, non pas qu'il était parfait, non pas qu'il n'y a pas eu de doute. Abraham a eu des doutes, comme tout le monde. Il ne faut pas en faire un super-héros sans faille, sans faute. On ne croit pas ça. Il a eu des moments durs. Mais il a regardé à Dieu. Il avait les promesses devant lui et travaillait avec elles. Il agissait selon les promesses qu'il avait reçues. Et il était exaucé parce qu'il n'a pas abandonné. Jacob a été aussi béni de la part de Dieu et finalement obtenu ce qu'il avait demandé. Hébreux, chapitre 6, verset 15, on voit avec Abraham, Abraham ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il a persévéré et il va obtenir ce qui était promis. Voilà. Alors, c'est un exercice quotidien de persévérer. C'est tous les jours qu'il faut persévérer. C'est pas simplement un mot qui nous dit quelque chose. C'est surtout une action à mener tous les jours. Comme les athlètes. Les athlètes, c'est pas ceux qui, un mois avant les Jeux Olympiques, se disent, oh, ce serait pas mal que je fasse les Jeux Olympiques. J'aurais mon nom dans les gros titres de journaux. Ce serait pas mal. Oh, tiens, oh, je vais y aller. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui, tous les jours, se préparent pendant 5 heures, 7 heures, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qui essaient d'améliorer leur performance, et qui mangent d'une manière équilibrée, etc., qui font tout ce qu'il faut pour réussir. Et pour devenir champion, ben, voilà, Jean-Pierre Papin, un des joueurs de France, des années 80, de Nantes, début de 2000, 80 ans surtout, eh bien, c'est un homme qui a fait ses entrées ici en, principalement en français, mais il a joué au football club brugeois, et puis il est parti, finalement, il a fait le bonheur de Marseille, et d'autres clubs, comme Milan, etc. Et, à un moment donné, il était dans l'équipe de France, et on a ri de lui, hein. On a un petit peu galvaudé son nom, son prénom, etc. Parce qu'il n'avait pas réussi à marquer. Enfin bon, il est passé par une période difficile. Et à la place de se décourager, d'aller dans le sens des médias, hein, puisqu'on dénigrait, eh bien, il a commencé à s'entraîner davantage. Une heure de plus à l'entraînement. Et finalement, ça va payer. Ça va payer. Il va pas se laisser crouler parce que ça ne marche pas comme il aurait voulu. Mais au contraire, il va travailler dur. Il va travailler dur. Et il va être le meilleur, le meilleur buteur de France pendant 5 ans et 3 fois le meilleur buteur de la Coupe d'Europe des champions, des clubs champions. Et on voit que cet homme a été vraiment fortifié par sa persévérance. Je crois que c'est tellement important, c'est un bon exemple. Comme on l'a dit tantôt, c'est une caractéristique des premiers chrétiens. Nous devons développer la persévérance. Daniel était un homme qui persévérait. Et le roi Darius avait réalisé cela. Il persévérait dans sa foi. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans l'amour de son Dieu. Il persévérait jour après jour. Et le roi le savait. Et Daniel, le roi d'Arius, dit ceci à Daniel, en s'approchant d'enfance, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Bien sûr, la réponse est positive, il est là. Hein? Et ce Dieu que tu sers avec persévérance, tu le sers avec persévérance, il le savait. Hein? Dieu va délivrer des lions fermés à la gueule des lions. Alors, nous n'abandonnons jamais. Et j'ai deux exemples ici. L'exemple de Marie Curie d'abord. Marie Curie et Pierre Curie, hein. Pierre et Marie Curie. Un excellent exemple de persévérance, c'est Marie Curie qui a travaillé avec son mari, le physicien français, dans une vieille cabane abandonnée de physiciens, dont le toit fuyait sans aucun moyen financier et sans aucune aide ni encouragement extérieur, essayant d'extraire du radium, d'un minerai d'uranium de qualité inférieure appelé le pêche-blinde, si je prononce bien. Et après l'échec de l'or, 487e expérience, Pierre a fait un geste de désespoir et a dit « Cela ne marchera jamais. Peut-être dans 100 ans, mais jamais à mon époque. » Marie s'est tournée vers lui, le visage déterminé, et a dit « Ce sera dommage si cela prend 100 ans, mais nous ne cesserons pas d'y travailler aussi longtemps que je vivrai. » Elle a fini par réussir et sa persévérance a apporté beaucoup de bien aux personnes malades du cancer. Intéressant, de voir Marie, Pierre et Marie, bien sûr, ils ont persévéré ensemble, et Marie a été jusqu'au bout, tellement persévérée que, finalement, la découverte a été là, et c'était la possibilité d'aller encore plus loin pour aider les gens du cancer en finalité. Donc, on voit Marie Curie qui va jusqu'au bout, on voit Lincoln aussi. Et Lincoln, ça nous parle énormément, Abraham Lincoln. Alors, on va pas parler de l'esclavage, de la loi qui abolit l'esclavage, c'est ça que je vais parler ici. Mais on va voir un petit peu les étapes de sa vie, Abraham et Lincoln. Et vous savez quoi? Vous allez écouter tout ce qui s'est passé dans sa vie. Vous allez voir, c'est beaucoup de choses négatives. Et on va voir. 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. Lincoln doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. 1818, mort de sa mère. 1831, première faillite. 1832, se présente aux élections législatives et est battu. Perd aussi sur son emploi. Veut faire son droit, mais est refusé au concours d'admission. 1833, contracte un prêt pour lancer une affaire. Et fait faillite, la même année. Il passera 17 ans de sa vie à rembourser cette somme. 1834, se présente de nouveau aux élections législatives. Est élu. 1835, projet de mariage. Mort de sa fiancée, qu'il aima profondément. 1836, grosse dépression nerveuse, fait 6 mois au lit. On pense pas à tout ça quand on pense à Lincoln. 1838, se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois et il est battu. 1846, se présente encore au Congrès, est élu, se rend à Washington où il fait du bon travail. 1848, sollicite un deuxième mandat au Congrès, n'est pas réélu. 1849, postule l'emploi d'agent des terres de son état natal, ne l'obtient pas. 1854, se présente au Sénat des États-Unis et battu. 1856, pose sa candidature pour la vice-présidence lors de la convention de son parti, obtient moins de 100 votes. 1858, se présente encore au Sénat et battu. 1860, est élu président des États-Unis. Par exemple, j'aurais pu dire en 1858. Comme celui qui fait un marathon, il doit 500 mètres. Mais non, il a continué jusqu'au bout. Il a obtenu. Abraham Lincoln, ça c'est vraiment l'image de la persévérance. Il n'y avait rien qui semblait aller depuis le départ. Tout semblait foiré pour certains éléments. Et pourtant, il a réussi. Un homme qui a réussi malgré toutes ses défaites, toutes ses désillusions. Et voilà, donc, dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas toujours aussi bien qu'on l'aurait espéré. Hein, c'est tout à l'avenir. C'est possible, hein. On pense que tous ceux qui réussissent, c'est parce que tout va bien pour eux. Ça a toujours bien été. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, il y a des difficultés. Mais les autres, ils vont bien. Ah ben non. Eh bien, ceux qui réussissent, c'est pas toujours parce qu'ils ont toujours tout réussi. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont combattu beaucoup, ils ont eu beaucoup d'échecs, ils ont eu beaucoup de problèmes. Même Brel, Jacques Brel, il allait dans des sociétés d'édition de disques, etc., on le refusait, en plus, ça pourrait rien faire. Et il devait aller dans les petits cafés, faire un chant ou l'autre, et ça ne plaisait pas forcément. Pas forcément. Donc il n'avait pas le succès, et puis tout d'un coup, voilà, les choses se sont faites. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Hein, parce que ça, on est en dehors du domaine spirituel. Mais je vais dire, c'est important. Si on travaille spirituellement, si on est vraiment disciple à 100%, avec le Seigneur, si on est vraiment des disciples de la parole de Dieu, si on tient compte des promesses de Dieu, Dieu ne ment pas. Dieu agira selon ses promesses. Tôt ou tard, mais Dieu agira selon ses promesses, parce qu'il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour se repentir, ni pour mentir, ni pour se repentir. Parce que quand il dit quelque chose, il le dit. Donc, même si tout va de travers, par rapport à ce que je pense que les choses doivent aller, un jour les choses vont changer. Mais il faudra continuer. Il faut persévérer jusqu'au bout. Et Dieu changera. Ce qui nous semble impossible à nos yeux est possible à Dieu. On va prier. Seigneur Père, nous te remercions parce que tu es le Dieu puissant qui répond à la prière, même si pour une période de l'histoire, pour une période de notre histoire personnelle, certains exaucements n'ont pas encore été vus, salués. Nous savons que tu as un temps pour tout, Seigneur. Et il y a un lot de difficultés, un lot de montagnes à dépasser pour enfin voir ta gloire dans certains domaines de nos vies. Nous voulons avoir confiance en toi et persévérer là où les autres abandonneraient. Les autres diraient « Arrête, ça sert à rien. » Non, Seigneur, nous voulons continuer. Nous voulons persévérer et aller jusqu'au bout. Ne pas nous laisser avoir par les pensées de l'adversaire. Ne pas nous laisser aller, Seigneur, selon nos pensées, mais bâtir notre vie sur tes promesses, quel que soit le prix à payer. Parce que nous savons que nous sommes gagnants, que nous serons vainqueurs. Parce que tu nous as promis la victoire et non la défaite. Nous te remercions. Merci Jésus. Que plusieurs puissent prier par rapport à ce qui vient d'être fait.
Seigneur, nous ne voulons pas nous lasser de ce faire bien. Nous ne voulons pas nous lasser de ce service avec un cœur entier. Nous voulons persévérer, Seigneur, dans les choses que tu nous demandes d'accomplir. Notre amour pour toi et pour ton Église, pour les prêtres, nous ne voulons pas baisser les bras, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, et avoir nos yeux fixés sur toi. Venir à la source. Tu seras très doux pour être fortifié parce que c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous soutiens dans les combats. Nous avons besoin de ta force toute puissante et de ton Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour. Parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es là à nos côtés. Tu nous soutiens et tu continues jour après jour de nous soutenir. Alors tout le monde est bien parce que nous ne sommes pas seuls. Merci, Père.
Merci, Seigneur. Seigneur, tu n'as jamais promis que nous ne voulions pas de problème, que tout était bien. Et Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir persévérer, garder les âmes, et garder les moments plus difficiles, Seigneur, car nous en avons et nous en avons encore. Nous savons que nous pouvons compter sur toi.